C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Bienvenue en ce début du mois de mai dans le Club des Hommes en Noir. Vous l'avez deviné, nous parlerons aujourd'hui de la dévotion à la Vierge Marie, et plus particulièrement au mois qui lui est consacré. Pour aborder ce thème, nous recevons aujourd'hui le Père Michel Viau.
Bonjour. Bonjour.
Merci de votre présence. L'abbé Claude Barthes.
Bonjour.
Monsieur l'abbé, bonjour. L'abbé Marc Guelfucci.
Bonjour.
Cher monsieur l'abbé, bonjour. Et le laïc de l'étape, Jean-Pierre Maugendre.
Bonjour.
Merci à tous de votre présence et d'avance, merci à tous de vos lumières pour nous éclairer sur cette dévotion à la Vierge Marie. Alors pour commencer, peut-être question un peu large, mais pourquoi le mois de mai est-il plus particulièrement dédié à la Vierge Marie, afin de lancer un peu la conversation? Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous, monsieur l'abbé Guelfucci, vous avez une réponse à cette question?
Oui, mais ce sont des réponses qu'on retrouve un peu partout de nos jours. Quand on ne sait pas ce qui se passe, on va sur Google, on va sur Wikipédia et
pas de publicité, s'il vous plaît, voilà. Dans cette émission.
Exactement.
Qui ne repose que sur les dons de ceux qui nous écoutent et nous regardent.
Tout à fait. Alors, pour essayer de ne pas donner une réponse qu'on peut trouver sur Internet facilement...
Vous avez inventé une autre réponse.
Bien non, mais donc ce sont des coutumes de piété mariale qui se sont développées à travers les siècles. Je ne vais pas donner les détails justement qu'on trouve sur Internet. C'est le propre de l'Église de transformer par rapport au mois de mai et le fait qu'il y ait un jeu de mots avec la Vierge Marie. Je crois que l'abbé Barthes a un nom savant sur ce...
Qui a l'air très étonné, qui me regarde.
Très étonné.
Sur quoi donc?
Et sur le fait que le mois de mai, il y a un jeu de mots avec
Marie. Oui, un jeu de Marie, il faut le retrouver.
Oui.
Maius Mensis,
voilà.
Madonna Mensis, c'est ça que vous voulez me faire dire.
Exactement.
Mais je tire ma science, moi aussi.
Voilà. Mais ce qu'on peut trouver, et par rapport au développement de l'encouragement de la piété populaire par les évêques, par le Saint-Siège, c'est le fait de consacrer un mois plus particulièrement. Comme le mois d'octobre a été consacré plus particulièrement à la prière du rosaire, le mois de juin au Sacré-Cœur, mais cela a été un encouragement qui est assez tardif finalement du 19e, du 20e siècle, où on proclame des mois qui sont consacrés. Par contre, le mois de mai, donc on peut remonter quand même dans les années 1700 pour avoir des dévotions plus particulières, voire même on remonte jusqu'à Saint-Philippe Néri qui demandait à ce qu'on fleurisse les statues de la Vierge Marie, qu'on prie le chapelet, qu'on fasse des petites processions.
Alors ça, c'était justement un peu mon autre question, c'est que faut-il faire pendant ce mois de mai? Mais pour l'instant, je reste un peu dans le flou. Enfin,
on commence par des piétés et des initiatives.
Non, mais sur l'origine historique de cette dévotion...
Eh bien,
vous la remontez au XVIIe siècle, ou en somme
Un peu avant.
Bon, si, mais c'est vrai que le XVIIe siècle a été très important, XVIIe, XVIIIe. Et tous les ordres y ont participé, mais particulièrement les jésuites et les jésuites romains. Ce sont des élèves du collège romain qui encouragés par leur professeur, dressaient des petits autels à Sainte Vierge, faisaient des bouquets de fleurs, etc. Il y avait une... Alors ça finit par devenir des véritables cérémonies dans les paroisses au XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle et au XXe siècle, jusqu'au XXe siècle. Il y a eu ces cérémonies du mois de Marie, il y en a peut-être toujours dans les paroisses pieuses. Mais je pense que les jésuites, donc anti-jansénistes, ont beaucoup influé sur cette dévotion particulière du mois de Marie. Je pense qu'on peut la rattacher particulièrement à cette piété, on va dire, romaine du XVIIe siècle, qui faisait barrage au rigorisme gallican et janséniste, qui par ailleurs, avaient des intérêts intellectuels.
Oui. Puis c'était dans la ligne de la contre-réforme.
C'était la ligne de la contre-réforme et du contre-romaine. Et c'est une espèce d'avancée romaine que cette adoption en France aussi, à la fin du XVIIIe siècle, par la fille de Louis XV, de cette dévotion, Madame de France, Louise de France.
C'est comme ça qu'elle se répand dans notre pays.
Notamment, oui. Elle s'est répandue assez tardivement à cause de ça. À cause de
Je crois qu'on peut aussi noter genre. Pour la France, sur cette période, le rôle de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, dans son traité de la dévotion à la Sainte Vierge, donc qui évangélise, réévangélise une bonne partie de l'ouest de la France et qui joue quand même un rôle très important dans le développement de la piété mariale en France, indépendamment de ce qui se passe à Rome.
Mais de manière aussi assez polémique contre ceux qui sont, ne veulent pas justement d'une piété trop forte. Donc on est quand même toujours dans la même ligne.
C'est-à-dire dans la ligne anti-janséniste, c'est ce que vous voulez dire, en tout cas anti-rigoriste.
Oui, voilà, anti-janséniste, rigoriste, anti-gallicane, tout ce mouvement autour du jansénisme qui veut réduire ce type de dévotion. Et qui s'oppose aussi à la même époque, enfin au XVIIIe siècle en tout cas, à la dévotion naissante au Sacré-Cœur.
Par exemple, la dévotion au Sacré-Cœur est moquée en disant que c'est le culte de l'organe. Vous voyez, le cœur qui bat. Mais c'est avec mépris qu'ils disent cela. De la même manière, la dévotion au cœur immaculé de Marie est moquée. Mais si on veut retrouver des traces historiques, qu'on trouve justement un peu partout, et je ne renouvelle pas les sources, vous avez donc au IIIe siècle le roi de Castille, Alphonse X, qui est connu pour avoir fait un poème où il associe le mois de mai et le nom de la Vierge Marie.
Et mais on sait pourquoi il y a cette association.
Parce que c'est un mois... Maïa, qui est la divinité qui donne le nom du mois chez les Romains, c'est Maius, Maior, c'est la végétation qui pousse, et donc c'est les fleurs aussi, ce qui fait que on encourage le fait de fleurir, d'honorer la Vierge Marie.
Donc le lien, c'est par les fleurs du mois de mai. D'accord, par les fleurs du mois de mai.
Par les fleurs du mois de mai. Et vous avez également, dans ces références historiques plus anciennes, mais le développement est vraiment du XVIIIe siècle. Et, c'est au XIVe siècle, le frère dominicain assez connu, Henri Suzeau, qui lui avait pris l'habitude, pour le 1er mai, d'orner des statues de la Vierge Marie, de couronnes, de fleurs, de couronnes. Oui. Ça, ce sont les marques les plus anciennes par rapport au mois de mai. Mais la dévotion mariale...
Oui, elle est beaucoup plus large, mais ça, bien sûr.
Triomphe, c'est au 5e siècle, avec Théotokos,
Éphèse.
Et le concile d'Éphèse.
Bien sûr, mais là, on se concentre, si je puis dire... Sur le mois de mai. Comment se passe ou se passait cette dévotion? Vous avez parlé tout à l'heure, M. Abébard, de petits hôtels, vous parlez de fleurs à les statues.
Et puis, quand j'étais enfant, donc je donne mon expérience des années antéconciliaires, il y avait d'abord le mois de Marie familial, on nous faisait faire des petits hôtels, ma mère nous faisait faire des petits hôtels à Sainte Vierge, sur la cheminée, c'est un peu comme la crèche de Noël, c'est le même intérêt pour les enfants, avec en plus ça ressemblait à un hôtel, la Sainte Vierge, des petits cierges, c'était comme à l'église, devant lesquels on disait le chapelet, on disait les litanies, etc. Et puis il y avait la dévotion à la paroisse, c'est-à-dire que tous les soirs de ce mois, 8h30, se déroulait une cérémonie, c'est-à-dire le devant le Saint-Sacrement exposé, comme d'ailleurs ça se faisait pour le Sacré-Cœur, devant le Saint-Sacrement exposé, récitation du chapelet, des litanies et d'autres prières, plus un salut du Saint-Sacrement, avec une participation populaire assez importante.
Et qui avait lieu tous les...
Tous les jours. Tous les soirs du mois de Marie, tous les soirs. Ouais.
Ce qui impliquait quand même, là aussi, une présence sacerdotale importante.
Ben oui, bien sûr.
Et
bien
donc,
sûr,
également...
Avec des petits-enfants de cœur, nous venions...
Ça fait sourire, vous faites sourire,
Jean-Pierre. Non, mais c'est très bien.
Qui est ému de larmes quasiment par ce.
Vrai qu'aujourd'hui, ça paraît un autre monde.
Oui. Est-ce que vous avez vécu ça vous-même
Ah non, nous avons quelques années d'écart. Je n'ai pas connu ça.
Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que dire que, à quelques années d'écart.
Il n'y a plus rien de tout ça.
Il n'y a plus rien de tout ça. Vous n'avez pas connu ça, vous.
Non.
On ne va pas vous demander votre âge, mais.
Non, ne demandez pas le mien non plus.
Vous remarquerez que je n'ai pas fait non plus.
Oui, je pense que c'était la suite. Enfin, il y avait quand même une certaine habitude dans les paroisses, notamment italiennes, en France moins, évidemment, de la prière du soir, la prière de la paroisse le soir.
On se retrouvait
en paroisse le soir pour une prière.
Et ça, c'est vrai dans les villages. Vous étiez dans un village, monsieur Levé.
Oui, 5 000 habitants.
5 000 habitants,
un bourg.
Mais vous avez un exemple particulier, historique en France, c'est la dévotion qu'avait développée l'abbé Guérin à Pontmain, avec vraiment un moine Marie qu'il avait développé.
Avant l'apparition ou après l'apparition ?
Avant l'apparition. Ah oui, il était très très marial.
C'est pour ça qu'il a été récompensé finalement. Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire alors.
Oui, oui. Et donc, c'est l'aboutissement de grands efforts qu'il avait faits, d'honorer le rosaire, de vierge pèlerine, ou de vierge qu'il a donné au foyer du petit village. Hein. C'était vraiment, il avait demandé à être le curé du village le plus abandonné du diocèse. Et il a été exaucé, mais il en a fait
un centre spirituel.
Un centre spirituel. Enfin, le bon Dieu a choisi ce village pour que la Vierge Marie sauve à nouveau la France.
Oui, moi je suis dans une paroisse qui est intitulée Notre-Dame de Lourdes. Et oui, c'est effectivement, les messes du soir, c'est 19h, sont très suivies. Je suis frappé de voir qu'elles sont beaucoup plus suivies que dans d'autres paroisses et qu'il y a des organisations de récitation de chapelet. Et il y a même, alors je trouve que c'est très beau cela, cette mise en pratique de cette parole de Jésus sur la croix, Fils, voici ta mère, voici ton fils, prendre Marie chez soi. Il y a un joli coffret. Une statue de la Vierge Marie et quelqu'un prend chaque jour et l'emmène chez lui.
Voilà, c'est les Vierges pèlerines.
Voilà.
Ça, c'est une coutume qui a lieu pendant toute l'année, pas spécifiquement
pendant
le mois de Marie.
Spécifiquement pendant le mois de Marie.
Le mois de Marie, oui. Prendre Marie chez soi, voilà. Et on donne un certain nombre de prières avec, bien entendu. Et il y a une liste. Je vous assure qu'elle est complète, il n'y a jamais de jour où
la Vierge n'est pas.
Elle est
où la Vierge n'est pas invitée à, voilà. À visiter les foyers.
Je trouve que c'est très beau. Et je pense aussi qu'il faut revenir à Louis-Marie Rayon de Montfort, parce que je sais que pour moi, il était j'avais déjà tout le monde sait bien que je suis venu à la religion par Lourdes, même si j'étais protestant après, mais c'est Lourdes. Voilà, bon.
Vous avez un itinéraire.
C'est Lourdes, c'est sûr. Et la Vierge Marie ne m'a jamais quitté, même pendant ma période protestante, parce que je me suis aperçu que beaucoup de luthériens, d'ailleurs, avaient une piété personnelle vis-à-vis de la Vierge Marie. C'est ce que m'a dit, d'ailleurs, un de mes premiers pasteurs, il était dans ce cas-là, lui aussi. Donc nous allions les 15 août au fête de l'Assomption. À la messe. Voilà, on communiait pas, bien sûr, mais on se mettait dans un coin. Mais ceci pour dire que Grillon de Montfort, moi, m'a beaucoup frappé. Et je conseille à tous nos auditeurs de le lire. Parce que dans son traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, d'abord, il commence, il y a la moitié, c'est de la christologie. Et ensuite, il parle de Marie. Mais ça, c'est vraiment la vraie dévotion à la Vierge Marie.
Ouais. À la sagesse éternelle.
Qui nous mène au Christ. Voilà, qui nous mène au Christ. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est une ouverture. Et c'est quand même frappant de voir qu'il commence. Et alors, il est au début donc, d'un siècle qui va être... Enfin, une partie du temps qui va être le siècle des Lumières, où on va s'attaquer à la révélation et à l'incarnation. Alors, c'est beau de voir qu'il y a Grillon de Montfort au début... Et Alphonse de Liguori à la fin.
En Italie.
Voilà. Et à mon avis, c'est pas pour rien. Je crois que c'est le contrepoison de l'horrible philosophie des Lumières. Et comme nous avons affaire à une recrudescence, sous une autre forme, hein, parce que finalement, le diable ne crée pas. Il n'invente pas, il ne peut pas créer le diable. Donc il reprend des vieilles lunes, au point de vue des hérésies. On les retrouve. Donc, à propos de l'incarnation, notamment, et à propos de la Vierge Marie, c'est une autre forme d'hérésie que de dire n'importe quoi sur elle. Par exemple, des gens, ce qui me frappe dans les révélations de Marie, souvent, c'est toujours très sobre ce qu'elle dit. C'est simple. Bon, mais quand je vois 12 volumes de révélations de la Vierge Marie, vous comprenez, là, j'ai des doutes. Hein, oui. Voilà.
Ça peut être de pieuses fraudes.
Voilà, oui. Mais pieuses ou pas pieuses, ce sont des fraudes. Voilà, c'est comme l'histoire du moindre mal, vous comprenez. Ça reste un mal.
Oui.
Bon. Alors, je crois que dans ces périodes troublées, justement, nous avons beaucoup de manifestations de... Ben, c'est ce que produit la peur. On a voulu faire peur aux gens. Et quand on agit par la peur, eh bien, on provoque des gens qui sont, disons... en bascule entre la raison et la folie, bascule du côté de la folie. Et à ce moment-là, on a des hallucinations, des apparitions qui disent n'importe quoi. Il serait temps d'aller au-devant de tout cela et de ne pas perdre, à fond, cette dévotion mariale qui est capitale pour la nouvelle évangélisation.
Je pense, en complément de ce que dit le père Viaud, que je partage tout à fait, vous avez évoqué la philosophie des Lumières. Je crois aussi que l'actualité de la dévotion à la Sainte Vierge aujourd'hui, c'est qu'elle est Vierge et Mère. C'est le thème de vos prédications classiques sur le sujet. Elle est Vierge et Mère, et ça, c'est complètement antagoniste, complètement contradictoire, avec les valeurs qui sont celles de la société hédoniste et individualiste dans laquelle nous nous trouvons. Et je crois que la dévotion à la Sainte Vierge, en ce sens, elle est vraiment un remède fort pour résister à ce climat général-là. En préparant cette émission-là, j'avais ça en tête, j'ai regardé, je le rappelle à nos téléspectateurs. Voilà, aujourd'hui en France, le préservatif est gratuit pour les mineurs de moins de 26 ans, et la contraception est gratuite pour toutes les jeunes filles jusqu'à 25 ans. Voilà. C'est la haine de la virginité d'une part et de la maternité d'autre part, dans ces mesures qui sont des mesures décidées par la puissance publique. Et je crois que ça donne une grande actualité à la dévotion à la Sainte Vierge pour résister à ce climat général.
Très intéressant ce que vous dites, mais comment peut se concrétiser cette dévotion aujourd'hui par rapport à ces mots que vous dénoncez ?
Ben, elle se concrétise, je crois, vous l'avez évoqué un peu, par la prière personnelle en famille, et puis
la prière
par...
personnelle en famille et en famille ou...
Alors,
les deux. Les deux, mon capitaine. Oui.
Les deux, et puis aussi ben, par, comme ça a été dit tout à l'heure, ben, par les communautés religieuses, les paroisses, qui redonnent de la vigueur à cette dévotion. Et je crois, par rapport à ce qui vient d'être... Et qu'il y a une vraie demande, parce que les gens sentent bien, eh bien que ces choses que je viens d'évoquer, ça n'est pas conforme à la loi naturelle, ça n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et pour ça, ben, ils ont besoin aussi d'armes spirituelles, d'être confortés, d'être réconfortés, d'être fortifiés. Et la Sainte Vierge, la dévotion à la Sainte Vierge, doit pouvoir les aider à ça.
Il faut expliquer aussi. Je crois qu'il faut expliquer, parce que c'est lié quand même à une saine christologie, et que, au fond, il y a un certain nombre de... Il y a le modernisme chrétien, et j'y inclus malheureusement une certaine dévotion protestante qui, tout en respectant Marie, ne lui donne pas toute la place qu'elle devrait avoir, parce que finalement, il considère Marie comme une mère porteuse.
Oui, le terme est fort, mais c'est intéressant ce que...
Mais oui. Et voilà. Mais tout est là.
Alors qu'elle a une...
Et oui, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle j'ai une discussion avec un évêque et qui m'a donné raison. Je ne dirai pas qui, parce que je ne vais pas l'ennuyer. Mais vous savez, on a fait un nouveau « Je vous salue Marie ». Et quand on dit, au lieu de dire « le fruit de tes entrailles », il dit « et Marie, et Jésus, ton enfant, est béni ». Eh bien, ton enfant, ça ne me suffit pas, moi. Parce que justement, aujourd'hui... des femmes peuvent porter un enfant dans leur ventre qui n'est pas le leur. Mmh. Et c'est pour ça que le fruit de tes entrailles, le fruit de vos entrailles, c'est beaucoup plus fort. Mmh. Et que cette autre version, pourtant, il faudrait trouver d'autres paroles, parce que la musique n'est pas vilaine, bon, pourquoi pas, mais dire simplement « Et Jésus, ton enfant est béni », voyez-vous, on glisse du côté de la mère porteuse. Et ça ne va pas. Mmh. Parce que le fait qu'il ait pris cher, que le Verbe éternel ait pris chair de la Vierge Marie, c'est là qu'est tout le mystère de l'incarnation, avec l'Immaculée Conception et l'Assomption de la Vierge, voilà, qui sont des éléments fondamentaux du mystère christique.
Parmi justement les...
Il
y a une des apparitions qu'on m'a présentée, et je ne me souviens plus laquelle, mais ce qui était... que ça vienne de la Vierge Marie elle-même, que ça vienne de la personne dans son imagination, ou par une volonté de pousser les autres à la piété en inventant, vous voyez, il y a trois sortes de sources, et puis d'autres, disait, la prière du chapelet, on devrait... comment dire, vraiment méditer les mystères avant de commencer la dizaine. C'est ce qui manque et ce qui va permettre de retrouver le but même du chapelet, c'est d'aller à Jésus par Marie, mais vers Jésus. C'est-à-dire, quand on médite les mystères joyeux, douloureux, glorieux et lumineux, comment, on est vraiment... Dans l'Évangile, on voit la place de la Vierge Marie, et parfois même, justement, elle n'est pas directe. La crucifixion, la flagellation, ce ne sont pas des scènes évangéliques où Marie est mise en scène.
Oui.
Pourtant, elle est là. Et c'est la Vierge douloureuse, c'est le... Vous avez dans la dévotion du mois de mai, mais vous avez aussi la dévotion du mois de septembre dans certains pays, il met un mois sur la Vierge douloureuse, hein, Mater Dolorosa, la Mère douloureuse.
Bah, c'est important.
Ce qui n'est pas le cas en France, me semble-t-il.
Non, mais c'est dommage, mais oui, mais voilà.
Monsieur l'abbé, vous vouliez dire quelque chose?
Je voulais dire, oui, non, je voulais parler du mois du rosaire, mais je pense aussi à une chose importante pour la piété populaire, c'est la formation des pasteurs. Et... il ne faut pas oublier le rôle très important qu'a eu en France M. Ollier, Jean-Jacques Ollier, qui a inventé, on peut dire, les grands séminaires, et qui était d'une piété mariale tout à fait extraordinaire, très chaleureuse, très sensible, mais en même temps très, très théologique, et qui va d'ailleurs extrêmement loin dans sa théologie mariale. C'est peut-être la partie la plus intéressante de la théologie de Ollier. Et sur ce rôle, un effet, on va dire, de corédemptrice, ce n'est pas le terme qu'il a employé, mais du fait que, entre Marie et Jésus, l'échange était total. Et tout ce qui est en Marie venait de Jésus. Et tout ce qu'on retrouve en Marie, c'est Jésus, tout ce que lui a donné, son fils. Et aussi des rapports entre Marie et les autres personnes de la Sainte Trinité, et notamment le Père. Donc, où il insiste beaucoup, il applique ces textes de sagesse qu'on lit dans les messes mariales, sur le fait que, en toute chose, j'étais avec toi, en fait, etc., comme si on attribue ce qui est dit par la Bible à la sagesse, à Marie. Donc, on fait comme si Marie existait de toute éternité, ce qui est vrai dans la pensée du Père, bien sûr. Et en effet, dans la pensée du Père, il y avait cette Vierge qui allait être son épouse, qui allait devenir la mère de son fils, et par conséquent, un rapport très particulier, très, très fort entre le Père et Marie. Et dans tout ce qu'il a créé, il avait, comme un époux à son épouse en vue quand il fait quelque chose, de même, Dieu, le Père, avait dans ce qu'il créait, dans ce qu'il imaginait, dans ce qu'il organisait, cette Vierge qui était son épouse. Qui
allait être. Ce que vous dites là montre bien qu'il est nécessaire de donner aux fidèles et aussi aux prêtres dans les séminaires qu'il y ait un approfondissement théologique de cette question. Et hier, nous faisions mémoire de saint Athanase. Bon, le pauvre homme était 45 ans d'épiscopat et 5 années d'exil. Hein. Bon, 5 fois l'exil. Bon, la question de la christologie, et alors, on a fini par la régler, bah, c'est par la Vierge Marie. Mais lui, il vient avant le Concile d'Éphèse. Bon, et il est encore persécuté. Il y a une majorité de gens qui sont ariens. La majorité des chrétiens est arienne. Comme quoi la vérité n'est pas du côté de la majorité. Comme quoi l'Église ne peut pas être une démocratie. Bon, on ne peut pas voter à la majorité des voix la vérité. C'est de la bêtise, une sottise.
Mais
sinon, c'est l'arianisme qui serait passé.
Là où le bon Dieu nous aide, c'est qu'au XXe siècle, on a la grande lumière d'une apparition certaine par sa multitude d'approbations et ses fruits, qui est Notre-Dame de Fatima.
Oui, tout à fait. Ça.
Et ensuite, toutes les autres apparitions reconnues par l'Église sont puissantes, mais Notre-Dame-Fatima, quand même, est un phare particulier sur cette dévotion mariale.
Tout à fait.
Alors je crois aussi, avec profit, en tout cas me semble-t-il pour les laïcs, voilà, se tourner vers les litanies de la Sainte Vierge, où je trouve vraiment...
qui me semble être un mode de prière complètement... oublié aujourd'hui, si je me trompe.
Le
pape François a même rajouté des invocations.
Oui. Mais je crois que cette prière, moi j'ai noté en particulier pour, quand on dit de la Sainte Vierge qu'elle est refuge des pécheurs, qu'elle est salut des infirmes, qu'elle est consolatrice des affligés, qu'elle est secours des chrétiens, je crois que ça parle aux laïcs. Mais aux prêtres aussi, bien sûr, et revenir à cette dévotion qui est une dévotion ancienne, qui est une dévotion, alors c'est sûr, un peu répétitive, mais ça renoue avec les grandes traditions liturgiques de diverses religions, c'est pas une originalité du christianisme. Je crois que c'est aussi un moyen de répondre aux attentes des laïcs, des fidèles, qui ont besoin que ça leur soit rappelé et que la Sainte Vierge, elle est là pour les protéger, pour les aider à faire leur devoir et la volonté de Dieu.
Plusieurs titres, effectivement. Oui. À propos de répétitivité, personne n'a réagi à ce que disait l'abbé Guelfucci sur la nécessité peut-être de prier autrement le rosaire en méditant plus profondément.
Voilà, j'appuie cette demande.
Il faut
prendre... Je trouve que c'est intéressant. Ah bah oui,
c'est assez fondamental. Mais il y a...
On accuse beaucoup le chapelet d'être répétitif
mais ça vient,
mécanique.
Il y a par exemple, le chapelet de Lourdes. Avant chaque dizaine, il y a une citation de la Sainte Écriture. Celui qui est en direct à 15h... il y a un véritable effort d'entrer, d'expliquer le mystère, alors que parfois on va vraiment trop vite.
C'est déjà une bonne chose que d'avoir un mystère. C'est un apport, je crois, de la dévotion moderne qui tire toutes les dévotions vers la contemplation, vers l'oraison. Et notamment le chapelet, c'est très bien. Alors, insister.
Et de citer, par exemple, 3-4 lignes du fait des évangiles avant. De dire, comme disent les scouts, pour illustrer le chapelet, c'est « Maman, je t'aime, maman, je t'aime, maman, je t'aime ». Il y a des moments où, parfois, il n'y a pas d'autre mot que de dire à sa mère les mêmes paroles, et le « Je vous salue Marie » est de cet ordre-là, sans compter le rappel de l'incarnation. Et le fait que la Vierge Marie est la nouvelle Ève.
D'où l'importance, me semble-t-il, de mettre à la disposition des fidèles et des laïcs des
petits quelques rosaires
lignes
médités.
De méditation, etc. Je suis frappé de voir comme autant ça se veut beaucoup, par exemple, pour les chemins de croix. Voilà, il y a quand même un nombre de productions non négligeables sur la méditation du chemin de croix. Autant je trouve que proportionnellement, alors que le chapelet, il faut souhaiter le dire tous les jours, le chemin de croix déjà, si on le dit une fois par semaine, c'est déjà bien. Mais en proportion, je trouve qu'il y a plus de méditation du chemin de croix qu'il n'y en a mis à disposition, ou en tout cas vulgarisé, dont on parle, etc., sur le chapelet. Je trouve que c'est un peu...
C'était le cas des...
triste.
Je parlais de ces prières du soir de la paroisse, lorsque le curé introduisait le curé ou celui qui présidait la prière, chacune des dizaines, il parlait en effet un petit peu du mystère en question. Ouais.
Mais il y a une collection, prier le chapelet avec Mère Teresa, avec Maximilien Kolb. Et vous voyez, on n'imaginerait pas prier le chemin de croix en disant, première station, Jésus est condamné à mort.
Et crac, on démarre.
Notre Père qui êtes aux cieux, comment on
vous présente. Oui, c'est ce que exactement.
On va penser à la scène elle-même.
La difficulté, c'est quand même une certaine forme, si l'on veut, avec tous les banalisation de récitation du chapelet. Ce que je disais tout à l'heure, on dit plus souvent son chapelet, fait le chemin de croix d'une manière générale.
Oui, bon, toute la difficulté aussi est que il y a des paroles dans le Je vous salue. Dans chacune dans les Ave Maria.
Voilà.
Et que donc, il y a et à la fois la méditation et les paroles.
L'attention aux mots, oui.
Oui, bon. une petite difficulté. Ce qu'il ne faut pas craindre, je crois qu'il faut le dire aux éditeurs, aux téléspectateurs, de sensibiliser cette dévotion. Il s'agit de notre mère. Et tout, on parle de Saint-Louis-Marie-Guillaume Montfort, qui était extrêmement sensible, et combien d'autres ? Saint-Alphonse de Ligorie. Mais puisque je parlais de M. Ollier, Jean-Jacques Ollier, il était extrêmement, lui aussi, sensible, chaleureux.
Alors, comment est-ce que vous...
Alors oui, je vous donne un truc, son truc à lui. Par exemple, quand il... c'est plus possible aujourd'hui, malheureusement. Je vous le dis quand même. Quand il marchait dans les rues de Paris, il choisissait les rues où il y avait le plus de statues de la Sainte Vierge pour pouvoir la saluer à chacune de ces statues. C'est joli. sans parler de tous les pèlerinages qu'il a pu faire, et notamment à Lorette, qui est très... D'ailleurs, oui, la dévotion... Des litanies. Les litanies que nous disons, ce sont les litanies de Lorette.
De Lorette,
oui. Parce qu'il y en a d'autres. Il y a celle de Caravaggio, par exemple. Mais enfin, il y a celle de Lorette qui nous rattache à la dévotion à la maison de Nazareth aussi. Bon, bref.
Maison de Nazareth qui a été déplacée, ou qui aurait été déplacée.
Qui aurait été déplacée.
Miraculeusement.
Oui, ou qui l'a pénétré par la famille d'Angelis. C'est aussi.
Voilà,
c'est aussi. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est une dévotion à la maison de Nazareth. Qui se fait à Lorette. Mais il y a l'évocation pour les Français de Lourdes. Combien de fois, bon, évidemment, j'habitais pas très loin, une centaine de kilomètres. Mais dans mon enfance, on allait à Lourdes.
Ah oui, vous, c'était la porte à côté.
Oui, il y a pas. D'accord, je reviens.
Ouais. Ça restait le grand pèlerinage français.
C'est ça. Il faut aussi dire que dans les paroisses, dans toutes les paroisses de France, la plupart, en tout cas les paroisses rurales, il y avait non loin un pèlerinage marial. Un, deux, trois par diocèse. Qui ont été remis à l'honneur, qui existent au XVIIIe siècle, mais qui ont été parfois inventés, on va dire inventés au bon sens du terme, au XIXe siècle. Et toute la paroisse, à plusieurs occasions, spécialement le lundi de Pentecôte. C'était un moment de pèlerinage pour toutes les paroisses de France. On allait, pour nous, c'était le sanctuaire dit de la Motte ou la Sainte Vierge. Je ne sais pas ce qu'elle avait fait. Enfin, bon.
J'y allais tous les ans, mais je ne sais pas ce qu'elle a fait.
Je ne sais pas, on avait dû découvrir sa statue ou quelque chose comme ça. Peut-être même pas, oui.
Enfin, d'avoir chez soi une statue de la Vierge avec, et qu'on va fleurir exprès pendant tout le mois de mai, c'est ciselé sa dévotion pour celle qui...
Mais est-ce qu'on se contente de mettre des fleurs
et
ou
prier
est-ce qu'on
le chapelet,
se met aussi devant
et prier le chapelet.
Et de prier le chapelet en famille,
mais mettre des fleurs... c'est... Alors avec l'inflation actuellement, tout ça, je dis mais vous rendez compte, le prix, ça coûte cher, et bien, ça fait fonctionner les fleuristes, et d'une part, et d'autre part, c'est beau.
Si c'est le but.
Non, mais c'est la beauté, la beauté des fleurs, et puis les fleurs, ça appartient à Dieu, c'est la fantaisie divine, la fleur. Donc honorer la Vierge Marie avec ce que le bon Dieu a fait, c'est tout convient.
Et puis il y a les processions aussi.
Et les processions,
je crois aussi beaucoup aux processions.
Le 13 mai.
Il faut que l'Église sorte un petit peu, qu'elle soit dans la cité.
Le 13 mai, ça serait l'occasion
à Paris de faire... La liturgie de jadis, c'était une liturgie de procession. Évidemment, la fin de l'Ancien Régime, la sécularisation a balayé beaucoup de choses de plus en plus. Mais il y avait des coutumes de procession dans les diocèses, dans les cathédrales, dans les paroisses, partout, on processait énormément.
Mais
énormément,
vous savez, pour on peut le faire aujourd'hui. Bon, il y a quelquefois des loupés. Moi, j'en ai vécu un sinistre avec la commémoration des martyrs de la Commune. J'étais. Bon, enfin, j'ai pas pris de coup de bâton, mais des gens à côté de moi l'ont pris. Bon. Mais nous faisons régulièrement des processions. Notre-Dame de Lourdes, et à chaque fois, ça se passe très bien. La police vient, et là, surtout ces temps-ci, ils ont veillé beaucoup plus qu'à l'habitude à ce que tout se passe bien. Et les grandes fêtes mariales, il y a des processions avec la statue de la Vierge.
Oui, il y a notamment, pour la France, la procession du 15 août.
Oui, mais nous, on en a d'autres. On a le 8 décembre, on a aussi la naissance de la Vierge, procession. Et on fait le tour du baptême de maison, dans la rue.
Et puis, je signale cette dévotion actuelle à Paris, des paroisses où on dit le chapelet pour le rétablissement de la liberté. Mais bon, bah, écoutez, c'est...
Je souris, mais ne vous empêche pas de parler.
De la liberté, de la... pas religieuse, de la liberté de la... de la liturgie, de la liturgie traditionnelle. Donc, tous les dimanches, à Notre-Dame du Travail, pas très loin d'ici, pas très loin de ce studio, à 18h, on se dit un chapelet devant l'église pour ce rétablissement. À Saint-Georges-de-la-Villette, c'est tous les mercredis, je crois, qu'est dit un chapelet. Et presque tous les jours, devant les bureaux de l'archevêché, rue du Cloître Notre-Dame.
D'ailleurs, à Notre-Dame de Paris, on appelait les grandes... comment dire, les grands tableaux.
Oui, les maîtres de Notre-Dame.
Offerts à la Vierge Marie par les artisans, oui,
par
les corporations, des mets. Et donc, ce tableau, c'était un mets, M-A-I.
M-A-I, d'accord.
C'est de la précision. Il y a des quantités de Notre-Dame qui sont restées, d'autres dans d'autres lieux. Mais je dois dire que lorsque, j'avoue, lors de l'incendie de Notre-Dame, une de mes craintes terribles était la disparition des mets. Voilà. Le reste, je me dis, on le rebâtira.
En fait, ils ont été... Il n'y a que l'hôtel qui a été écrasé. Tout le reste a été...
L'hôtel, pas n'importe quel hôtel.
Voilà, l'hôtel en métal. Le métal en métal.
Vous avez évoqué tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous, mais le fait qu'il y a aussi le mois d'octobre consacré au rosaire.
Vous
avez évoqué
oui.
Le mois de septembre dans certains pays.
Oui.
Pourquoi, là aussi, pourquoi un mois de mai à la Vierge, un mois d'octobre encore à la Vierge, voire un mois de septembre?
C'est pour multiplier les dévotions, c'est très bien. Pourquoi le mois de Saint-Joseph aussi, qui évidemment imite le mois de la Sainte Vierge, le mois de mars.
Les litanies de Saint-Joseph au mois de mars, chaque jour. Et les litanies du Sacré-Cœur au mois de juin.
Au mois de juin.
Les litanies du Précieux Sang, qui sont très peu connues.
C'est vrai.
Et extrêmement belles
au mois de juillet.
Au mois de juillet, d'accord. Alors faites-moi le calendrier. Non mais, sérieusement.
Les âmes du purgatoire... Au mois de novembre.
Au mois de novembre. Alors, octobre, décembre, maintenant
Décembre, on laisse la place à
l'avant.
Au temps de l'Avent et
au
à Noël.
Au temps de l'Avent, janvier.
Qui est, remarquez, le temps de l'Avent, qui est aussi un temps marial.
Un temps marial,
on parle,
effectivement.
Toutes les entières, voilà, pour le coup, très liturgiques, hein, parlent de la Sainte Vierge, oui, bien sûr.
Bon, le mois
au
de janvier.
Mariés partout.
Le mois de janvier.
Des mariés non Satis, on
est pas de le mois de
juillet,
janvier est encore en ligne.
Juillet.
Janvier.
Ah, janvier, pardon, que j'ai mal.
Janvier.
Janvier, février.
Je crois que janvier.
Ça commence en mars, en fait. Après. Si je comprends bien.
Alors. Le janvier est le mois du Saint-Nom de Jésus.
Oui.
C'est vrai.
Ah oui.
Mais c'est pas très répandu.
Non,
enfin,
mais les litanies du Saint-Nom de Jésus, qui sont très belles, c'est une consécration du mois de janvier qui est moins connue. Voilà.
Et février, alors ?
Février, non.
C'est le carême, déjà,
voilà,
presque. En fait, c'est le septuagésime carême.
C'est le septuagésime, d'accord. Donc, tout ça s'insère dans le carême. On peut estimer que c'est paraliturgique ou réellement liturgique, tout ça ?
Ah, paraliturgique, c'est incontestablement, oui.
Voilà, donc ça reste...
Mais qu'est-ce qu'y a-t-il une grande différence entre le paraliturgique et le liturgique ?
Mais c'est à vous de répondre, parce
oui,
que...
Oui, je sais pas.
Vous
me posez la question, et je me la pose, notamment pour ce qui est des processions, hein, qui sont en effet véritablement liturgiques, et pourtant avec un foisonnement de dévotion, de piété populaire.
De piété populaire.
Donc, c'est à peu près comme la distinction dans l'Antiquité chrétienne entre la prière personnelle et la prière commune, la prière liturgique, dont les choses sont... les frontières sont floues. Mais il est vrai que les choses purement liturgiques, réglées par les rubriques, etc., sont réglées par l'Église, par l'autorité de l'Église.
Je pense qu'il y a également, certainement, de la part de l'Église, une dimension pédagogique, c'est-à-dire sortir de la routine, dire, ben voilà, ce mois-ci, on va faire effort sur tel ou tel aspect de la spiritualité. Et en ce sens... Ça me paraît vraiment très bien adapté à la nature humaine, à ce que sont les gens et à leurs attentes plus ou moins conscientes.
Merci beaucoup Jean-Pierre, ça sera le mot de la fin, cette approche sur la pédagogie de l'Église par rapport à la foi des fidèles. Merci beaucoup. Peut-être, je vais faire un tour de table quand même pour terminer, un conseil de chacun d'entre vous pour ce mois de Marie, pour qu'il soit réellement vécu par tous ceux qui nous écoutent. On va commencer par Jean-Pierre.
Alors, un point qu'on n'a pas évoqué, Paul VI a donné à la Sainte Vierge, officiellement, le titre de Mère de l'Église, Mater Ecclesiae. Voilà, je crois que ça doit, en ces temps troublés, vraiment susciter notre générosité et accroître notre dévotion à la Sainte Vierge. Elle est la mère de l'Église.
Prier
à cette intention. Voilà, la prier pour l'Église dont elle est la mère.
Voilà, qui est en crise et qui en a certainement bien besoin. Mon père, Pervio.
Puisqu'on rappelle les anciens titres aussi, je rappelle souvent Reine de France. Oui, c'est important.
Non, c'est
elle est Reine de France. Et ça a été proclamé par un souverain légitime, d'ailleurs dont les lois existent encore, notamment les lois contre le duel. Eh bien, bien entendu. Et par conséquent, il y a une continuité. Eh bien, je pense qu'il faudrait rétablir cela aussi, Reine de France.
Abbé Guilfucci.
Eh bien, moi, j'ai, pour la méditation de le pourquoi de cette dévotion, je citerai le bienheureux don Colomba Marmion, qui a été béatifié récemment.
Bénédictin, oui.
Et
irlandais.
Il est irlandais d'origine.
Il est d'origine irlandaise, bien sûr.
Il est belge, en Belgique. Il a vécu en Belgique, mais il est irlandais d'origine, quand même.
C'est le Christ dans ses mystères. Voilà ce qu'il écrit. « Jamais fils n'a aimé sa mère comme lui. Quand il l'a rencontré si désolé sur la route du calvaire, il a dû sentir s'émouvoir toutes les fibres de son cœur. » Et pourtant, il passe outre, il continue son chemin vers le lieu de son supplice parce que c'est la volonté de son Père. Marie s'associe à ce sentiment. Elle sait que tout doit s'accomplir pour notre salut. Elle prend sa part des souffrances de Jésus en le suivant jusqu'au Golgotha où elle deviendra co-rédemptrice.
Monsieur l'abbé Barthes, vous avez le mot de la fin.
Tout a été dit, mais de manière extrêmement concrète, je conseillerais à nos auditeurs, téléspectateurs, de s'examiner, comme par exemple pendant le temps de carême, quels efforts particuliers je vais faire, ben, qu'est-ce que je ferai pendant ce mois de Marie. Tout simplement, si je ne dis pas le chapelet, je vais le dire. Je conseille également cette chose toute simple d'aller faire de temps à autre quelques pèlerinages dans un sanctuaire à Paris, c'est très facile.
Rue du Bac
ou Notre-Dame-des-Victoires, par exemple.
Ou de participer au prochain pèlerinage de Chartres, enfin de Paris à Chartres. Pour à la Pentecôte, ça sera aussi une manière.
Même s'il n'est pas spécifiquement marial, mais ouais, on va vers Chartres. Oui.
On va vers Chartres, qui est quand même.
Qui est un sanctuaire marial.
Qui est quand même un sanctuaire marial, et on part de Notre-Dame, à peu près de Notre-Dame de Paris. Merci beaucoup, messieurs, de vos éclairages, de vos lumières, puisque j'employais ce terme en début d'émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Club des Hommes en Noir sur un autre thème. Nous confions tous à la Sainte Vierge. Nous allons essayer d'accroître notre dévotion envers celle-ci qui est mère de l'Église et reine de France, comme le Père Vieux nous l'a rappelé. En attendant donc notre prochaine émission, que Dieu vous garde. Au revoir.